Les timbrés.
Les timbrés. Michel Soulier.
Association philatélique Montpellier-Rennes. Les timbrés, Michel Soulier.
Michel Soulier, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, nous commençons une belle épopée, celle de la Russie à travers le timbre-poste. Et vu l'étendue des informations à donner, nous avons choisi de découper cette information sur la Russie en trois émissions. Donc, nous commençons par la première, bien évidemment. Et nous allons évoquer aujourd'hui la Russie impériale.
Oui, donc il faut rappeler que la Russie, c'est un immense territoire. Et après le Canada, c'est le pays le plus grand. Donc, et bien sûr, en Europe, très largement. Et c'est un pays qui a eu une histoire extrêmement lourde, complexe, et pour lequel je dirais que la philatélie a suivi les péripéties qu'a subi le pays.
La philatélie est toujours proche de l'histoire.
Toujours.
Alors, elle témoigne d'événements.
Ouais, absolument. Donc on va démarrer, bien sûr, avec l'Empire russe, la Russie impériale. Je n'aborderai pas la pré-philatélie, c'est-à-dire la période avant l'apparition des premiers timbres, bien que l'histoire postale de la Russie ait commencé très tôt. On connaît notamment des échanges commerciaux entre l'Empire ottoman et la Russie dès le XVIe siècle. Donc, ça a commencé très tôt. Alors, l'histoire de la Russie, c'est effectivement complexe et long. La philatélie de la Russie est très riche, très compliqué, et on va essayer d'y voir, disons, un peu plus clair. Alors, au milieu du 19e siècle, on va partir de cette date-là, l'Empire russe est un immense territoire qui va de la mer Baltique, où se trouve sa capitale, Saint-Pétersbourg, donc complètement rejeté à l'ouest, jusqu'à l'Alaska. Il ne faut pas oublier que l'Alaska faisait partie de l'Empire russe et ne sera vendu aux USA qu'en 1867. Ça n'a pas été la meilleure affaire qu'ait fait la Russie à cette époque-là. Gouverner et assurer les communications entre le pouvoir, qui était très centralisé, et l'ensemble du territoire est un challenge difficile à réaliser avec les moyens de communication de l'époque. Souvenez-vous de Michel Strogoff, courrier du tsar, le roman de Jules Verne et des aventures que cela a suscité. La poste d'Empire va relier la capitale aux principales villes du pays, qui à l'époque comprend, ne l'oublions pas également, la Pologne, la Finlande, les Pays-Baltes, les pays du Caucase et l'Asie centrale. C'est un énorme paquet. Alors, dès 1845 à Saint-Pétersbourg, en 1846 à Moscou et en 1848 dans tout l'Empire, la Russie va utiliser ce qu'on appelle des entiers postaux, c'est-à-dire en fait que le timbre est imprimé directement avec le montant du port sur l'enveloppe. Et ce n'est que le 20 octobre 1857 que le tsar Alexandre II accepte un projet de timbre à coller sur le courrier avec trois valeurs, 10, 20, 30 kopecks, qui correspondaient à des tarifs de circulation différents. Alors, ces timbres doivent être mis en circulation le 1er janvier 1858. Dès l'origine, il est prévu que ces timbres soient dentelés. Le 10 kopek, qui est le numéro 1 de Russie, est un non dentelé, mais accidentel. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la Russie achète des machines à perforer en Autriche. Or, quand ces machines arrivent, des incidents techniques empêchent la mise en route des machines en temps voulu. Et pour pouvoir mettre en circulation les timbres comme c'était prévu à la date du 1er janvier 1858, eh bien l'imprimerie livre 30 000 feuilles de 100 timbres non dentelés et la poste va découper consciencieusement les timbres et les envoyer dans les bureaux des villes, bien sûr non dentelés, où plus de 10 000 timbres seront vendus entre le 23 et le 31 décembre 1857. Donc juste avant la mise en service au 1er janvier, bien sûr. Tous les timbres ont été distribués. Mais dès le 5 janvier, les timbres dentelés font leur apparition et le numéro 2 de Russie est en fait le numéro 1 avec des dents dentelées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le numéro 1 de Russie, donc le 10 copec non dentelé, est un timbre très rare à l'état neuf, et c'est un timbre très cher, et peu courant sur lettres. Bon, il a été utilisé en fait très peu de temps, et donc c'est une des plus grosses valeurs philatéliques de Russie. Alors, les réformes administratives du territoire qui sont nécessaires pour gérer cette immense surface, vont aboutir à un découpage en 36 gouvernorats. Il y a 36 gouvernorats. Les gouvernorats eux-mêmes sont subdivisés en districts, ce qu'on appelle en russe des ouyets, et qui regroupent des villages qu'on appelle des selos. Hein ? En 1860, sont créés des conseils en charge de gérer les ouyets, et ces conseils sont appelés des siemtsvo. En 1864, il y aura 371 ouyets dans les 36 gouvernorats de Russie. Parmi les compétences des ouyets, sur leur territoire, se trouvent les moyens de communication. Et donc, c'est sur cette base que vont être créées les premières postes locales que l'on va appeler la poste des Sienso.
On y arrive.
Et pour les philatélistes, c'est une mine. Les postes de Sienso ne seront reconnus par la poste impériale, en fait, qu'en 1870. À ce moment-là, elles seront considérées comme des prolongements de la poste impériale et parce qu'elles ne venaient pas en fait en concurrence avec cette poste puisque leurs prérogatives étaient différentes. Hein. Faut quand même pas oublier que, par définition, la poste impériale a le monopole du transport de courrier et que ça a été donc une partie de billard entre les Sienso et la poste impériale jusqu'à ce que la poste reconnaisse effectivement l'intérêt, l'utilité et pousse les Sienso à développer leur système postal. Donc les postes de Sienso vont donc assurer la collecte et la distribution du courrier sur leur territoire. Et ils assureront le relais avec la poste impériale dans les grandes villes, hein, qui seules peuvent assurer l'acheminement des courriers en dehors de l'ouyets. Vous êtes obligé pour aller envoyer du courrier dans l'ouyets d'à côté de passer par la poste impériale. On trouvera donc des plis des courriers internes à l'ouyets, avec un affranchissement uniquement de timbres locaux, où on trouvera des plis pour d'autres destinations qui, eux, comporteront deux affranchissements, un local et un de la poste impériale. Certains ouyets ont assuré gratuitement le service postal sur leur territoire. D'autres faisait payer en numéraire. On ne se cassait pas la tête, on venait avec ses copecs, on payait en numéraire. Et 162 ouyets, quant à eux, ont émis des timbres. Entre le premier timbre de Sienso, émis à Schlisselbourg, qui est dans le gouvernorat de Saint-Pétersbourg, en 1865 et 1917, qui est la disparition des postes de Svinesu, plus de 3000 timbres locaux ont été émis. D'abord, réalisés localement, à partir de 1884, certains ouïettes ont fait réaliser leurs timbres par l'imprimerie impériale. Les tirages sont souvent très limités. On connaît certains tirages de timbres entre 100 et 1000 exemplaires, par exemple. On ne connaît pas de stock. Il n'y avait pas de stock. Et donc, l'absence de stock, les guerres, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a eu la guerre de 14, il y a eu la guerre civile, il y a eu la guerre de 39-45. Donc, entre ça, les guerres, les révolutions, cela fait des timbres de poste local russe une collection très difficile, passionnante, aussi bien en histoire postale d'ailleurs, qu'en collection traditionnelle, c'est-à-dire la collection des timbres proprement dit, ou même en collection thématique. En effet, les visuels ont été très nombreux, et depuis le plus rudimentaire jusqu'au plus sophistiqué. Et ce sont des visuels, disons, qui peuvent entrer dans de nombreuses collections thématiques. Jusqu'en 1913, les timbres impériaux utilisent comme visuel uniquement les armes de l'Empire, c'est-à-dire l'aigle bicéphale. Et à l'exception d'une série de bienfaisances émises en 1905 lors de la guerre russo-japonaise, et vendues avec surtaxe au profit des orphelins de guerre, bien sûr. En 1913 est émise une série pour le tricentenaire de l'avènement des Romanov au pouvoir, qui représente les portraits des tsars de Michel Fedorovitch à Nicolas II, c'est-à-dire tous les Romanov, et la représentation également des palais impériaux. Lors de l'entrée en guerre en 1914, une nouvelle série de bienfaisances au profit des combattants et de leurs familles est émise. Et c'est la dernière émission, en fait, de l'Empire, hein, si l'on accepte les surcharges avec des nouvelles valeurs qui ont pu être émises en 1916 pendant le conflit mondial. Voilà comment se présentait l'Empire russe et son service postal. Mais il faut imaginer, et je suis en fait très admiratif, qu'on ait pu administrer un tel territoire, finalement, de manière assez efficace.
Merci pour cette première partie sur l'histoire de la philatélie de la Russie. On s'arrête avec la Russie impériale et cette dernière émission. Et nous allons continuer dans une émission, là je parlais émission philatélique, nous allons continuer dans une deuxième émission radiophonique. À bientôt.
C'était Les Timbrés. Michel Soulier, Association philatélique Montpellier-Rennes.